VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la politique en République démocratique du Congo. Tension au sein de la coalition au pouvoir qui rassemble les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur à la tête de l'État, Joseph Kabila. Un proche du président Tshisekedi a fait état d'une rupture des discussions entre les deux camps. Nathalie Barge.
Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement, Jean-Marc Kabound, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo. M. Kabound accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de M. Tshisekedi à Kolwezi sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, a-t-il déclaré. Le gouverneur pro-Kabila de la province de Lualaba, Richard Mouyège, a affirmé que des portraits de M. Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de messieurs Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole Néhémie Mouilania.
Toujours en RDC, l'un des fondateurs du mouvement citoyen Filimbi, Floribert Nzulini, est rentré dimanche à Kinshasa après plus de 4 ans en Belgique où il avait fui le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Monsieur Nzulini se félicite que la mobilisation interne et externe ait empêché Joseph Kabila de se représenter puis d'imposer son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary comme vainqueur de la présidentielle. Cadre bancaire spécialisé dans la gestion des risques, Floribert Nzulini avait quitté la RDC en mars 2015 après un coup de filet de la police visant Filimbi et des activistes des mouvements Ballet Citoyen, lequel milite au Burkina Faso, et Yanamar, qui a son siège au Sénégal. Cameroun maintenant, la présidence camerounaise a annoncé dimanche la tenue d'élections législatives et municipales, reportées deux fois, pour le 9 février prochain, alors que le pays est confronté à une grave crise dans ses zones anglophones et fait face aussi aux attaques djihadistes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de prolonger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions sécuritaires. Lors de la présidentielle de 2018, qui a conduit à la réélection de M. Biya, la participation avait chuté dans les régions anglophones, n'atteignant que 5% dans le nord-ouest. La majorité présidentielle dispose actuellement de 157 sièges au Parlement sur 180. Outre l'annonce de la tenue des élections et la libération de l'opposant Maurice Kamto, le pouvoir avait organisé un grand dialogue national début octobre où un statut spécial pour les régions anglophones a été proposé. La semaine dernière, les États-Unis ont durci le ton face à Yaoundé, dénonçant des violations grossières et répétées des droits humains internationalement reconnus. Washington a privé le Cameroun de son traitement commercial préférentiel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale, toujours au Tchad, 2 semaines après l'accord de cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et le comité d'autodéfense de Misky dans le nord, une délégation de ce comité a été reçue par le président Idriss Déby Itno la semaine dernière à N'Djamena. La rencontre a permis de formaliser plusieurs points contenus dans l'accord visant à ramener la paix dans cette partie du pays. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
Une rencontre qui a permis de mettre formellement en exécution 3 points de cet accord. Il s'agit de la libération des membres du comité d'autodéfense faits prisonniers, la levée de blocus militaire de la zone de Misky et la réhabilitation des chefs traditionnels qui ont été limogés il y a environ 1 an. Une décision qui avait précipité la crise entre les autorités de N'Djamena et le comité d'autodéfense de Misky. Moli Sougui est le coordonnateur et porte-parole du comité d'autodéfense.
Nous avons dépêché une délégation constituée de 7 membres du comité d'autodéfense France, à N'Djamena, pour rencontrer le chef de l'État. Et Sciences-Géna, il a décidé d'honorer une bonne partie de nos revendications et il nous reste encore des conditions primordiales.
Les deux conditions sont les découpages administratifs et l'exploitation anarchique de l'or dans cette zone. Tout en se félicitant de cet accord qui est un premier pas dans la décrispation de cette crise, le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mohamed Nouri Bidou, estime que ce document doit servir de base pour gérer les isolements dans d'autres provinces.
Au-delà de ce qui a été conclu, que cet accord puisse servir de base afin que tout cela s'applique dans les autres régions où l'or est apparu comme au Tibesti. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'or du Bata continue à être exploité au service exclusif de la famille du chef de l'État. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui ont amené le comité de l'autodéfense à ne pas accepter une mainmise rapide de la famille présidentielle sur l'or de Miski.
Le coordonnateur et porte-parole du comité d'autodéfense confirme qu'il est hors de question que l'or de Miski soit exploité pour enrichir des individus au détriment des zones productrices. Mouli Sougui.
Nous voulons que l'exploitation se fasse dans un cadre légal de l'État. Et si cela contribue à réduire la pauvreté, nous, on ne voit pas l'inconvénient.
Ahmad Ramadan, membre de la société civile et natif de la localité, affirme que cet accord remet le compteur à zéro.
Il reste maintenant les problématiques du découpage administratif qui est la source de tous ces problèmes. Donc, ce sont les conséquences qu'on est en train de les gérer. Nous appelons la communauté internationale de suivre de près cette affaire. On a affaire à des hommes politiques et surtout les gouvernements tchadiens et les présidents Déby n'ont jamais respecté leurs accords. Donc, il faut faire très attention.
Le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, affirme à VOA Afrique que les négociations qui se poursuivent sur le terrain sont encore au niveau préliminaire et donc il s'abstient de faire de commentaires. Toutefois, il confirme que les avis des deux parties convergent vers la décrispation de la crise pour amener la paix définitive dans cette partie du pays. André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, la police annonce des mesures disciplinaires après la diffusion d'une vidéo suggérant un certain laxisme à l'aéroport international de Bamako. Selon les images circulant sur les réseaux sociaux, des passagers arrivés de l'étranger sont entrés sur le territoire sans croiser ni policiers ou subir des contrôles. Nous retrouvons Nathalie Barge.
Une vidéo tournée à l'arrivée à Bamako d'un vol d'Air Mauritanie en provenance de Brazzaville dans la nuit de jeudi à vendredi a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, la direction de la police des frontières a expliqué que l'avion était arrivé plus d'une heure plus tôt que prévu. Les portes séparant la zone internationale du reste de l'aéroport étaient bien fermées, mais un agent de la direction des aéroports s'est permis d'ouvrir les portes avec sa carte magnétique sans en référer à la police et en violation des procédures, indique la police malienne. Les ministres de la Sécurité et des Transports se sont rendus depuis à l'aéroport, a ajouté la police dans un autre communiqué publié ce week-end, affirmant que des mesures disciplinaires ont été prises contre tous les agents qui étaient en poste. Le directeur général de la police rassure l'opinion nationale et internationale sur le fait que des dispositions supplémentaires seront prises afin que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais, précise le communiqué.
Afrique du Nord maintenant, en Algérie, l'ancien Premier ministre Ali Benflis, candidat à la présidentielle du 12 décembre dans le pays, s'est engagé dimanche à satisfaire les revendications de ce qu'il a appelé la révolution. S'il est élu, il s'adressait au mouvement de contestation populaire dont le pays est le théâtre depuis le 22 février. Candidat de reprise contre le président déchu Abdelaziz Bouteflika en 2004 et 2014, M. Benflis, 75 ans, s'est notamment engagé à dissoudre le Parlement et à promouvoir une nouvelle constitution dans une volonté apparente de donner des gages aux manifestants qui refusent la tenue du scrutin. Actualité politique aux États-Unis pour terminer, un grand spectacle politique débutera mercredi à Washington avec les premières auditions publiques de témoins clés dans l'enquête pour l'impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation du président Donald Trump en vue de le destituer. Le chef de l'exécutif américain a qualifié cette enquête de mascarade et il jure de prendre sa revanche sur les démocrates au présidentiel de 2020. C'est le diplomate Bill Taylor, chargé d'affaires américaines à Kiev, la capitale de l'Ukraine, qui ouvrira le bal devant les membres de la puissante commission du renseignement de la Chambre des représentants qui est à majorité démocrate, donc qui est dominé par l'opposition. La commission entendra ensuite George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine, puis vendredi l'ex-ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Jovanovitch. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.